RFI, il est 7h à Paris, 5h en temps universel, 1h à Washington.
RFI Matin.
RFI Matin, ça commence avec le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Marion Cazeneuve, bonjour à toutes et à tous.
Bras de fer engagé aux États-Unis entre la Maison Blanche et l'institution judiciaire.
Et Donald Trump qui monte les muscles. Son administration n'entend plus se plier aux décisions de justice et les juges la rappellent à l'ordre pour outrage à magistrats, notamment pour des expulsions abusives de migrants. On fait le point avec Karine Auton dès le début de ce journal.
Au Proche-Orient, Israël déclare vouloir la conquête totale de la bande de Gaza.
Par la voix du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui veut mettre en œuvre le plan Trump d'expulsion des Gazaouis. Gaza lourdement bombardé, encore ce matin, 10 morts près de Khan Younes, tous membres d'une même famille, tandis que de nombreux soignants palestiniens sont eux enfermés et même torturés dans les prisons israéliennes. 200 ans après la reconnaissance de l'indépendance, la France lance une commission pour Haïti, mais n'envisage pas de réparation, vous l'entendrez. Au Sénégal, 5 anciens ministres dans le viseur de la justice pour détournement de fonds du Covid-19 mis en place durant la pandémie. Et puis enfin, le top 100 des personnalités les plus influentes de la planète du Time Magazine. Pas de Marion Cazeneuve cette année, mais Serena Williams, Ed Sheeran, Léo Marchand ou encore Gisèle Pelicot.
Donald Trump contre les juges.
Donald Trump qui instaure un climat délétère face à l'institution judiciaire depuis son retour au pouvoir en janvier. Le président américain qui multiplie les intimidations et qui compte bien gagner son bras de fer. La Maison Blanche qui n'entend plus se plier aux décisions de justice, ce qui a récemment conduit par exemple à l'expulsion abusive d'un homme au Salvador malgré l'opposition des juges. Et aujourd'hui, 2 magistrats menacent de sanctionner l'administration Trump si elle continue de bafouer délibérément ses décisions de justice. À New York, correspondance de Karine Auton.
2 juges estiment qu'il y a de fortes chances pour que l'administration Trump soit reconnue coupable d'outrage au tribunal puisque des jugements sur des déportations de migrants illégaux n'ont pas été respectés. Ils laissent quelques jours à la Maison-Blanche pour y remédier avant d'émettre leur jugement définitif, mais celle-ci a de toute façon déjà annoncé qu'elle ferait appel. D'autres juges, eux, bloquent certains des ordres exécutifs pris par Donald Trump. Des embauches de fonctionnaires, le déblocage de fonds gelés dans le domaine du climat et des infrastructures ont été récemment ordonnées, mais le républicain accuse les juges d'usurper les prérogatives du pouvoir exécutif et sape leur réputation sur les réseaux sociaux. La sanction d'un outrage au tribunal pour un particulier, ce peut être soit de la prison, soit une amende, soit les deux. Pour une administration, c'est plus complexe, mais surtout, ces crises révèlent bien les limites des tribunaux à faire respecter leurs décisions face à un pouvoir exécutif qui piétine les règles. C'est pour ça que certains analystes sont convaincus que les États-Unis sont au bord de la crise constitutionnelle. Karine Auton, New York, RFI.
L'administration Trump, qui a par ailleurs rendez-vous le 15 mai prochain avec la Cour suprême pour une audience visant à statuer sur un décret du président qui souhaite supprimer le droit du sol aux États-Unis. Pour l'instant, la Cour suprême, à majorité conservatrice, a rejeté la demande de suspension des lois en vigueur formulée par l'exécutif.
Donald Trump, lui, avait rendez-vous hier avec Giorgia Meloni.
Et ils se sont affichés tout sourire, le président américain et la première ministre italienne, bras dessus, bras dessous, dans le bureau ovale. Presque de quoi faire oublier la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe. Guerre commerciale qui pourrait prendre fin, selon le président américain, qui s'est dit sûr à 100% qu'un accord sur les droits de douane serait bientôt trouvé avec l'Union européenne. Donald Trump, décidément optimiste, également concernant les minerais ukrainiens. Un accord sera signé jeudi prochain, avance-t-il. L'Ukraine, la guerre continue, des frappes russes ont fait 2 morts cette nuit à Kharkiv et à Soumy.
À Gaza, Israël appelle à intensifier les combats.
Par la voix du ministre d'extrême droite des Finances, Bezalel Smotrich, Gaza qui compte encore et toujours ses morts, 40 hier selon les secours, 10 à nouveau ce matin selon la défense civile palestinienne, tous membres d'une même famille. Cela s'est passé près de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Le docteur Oussam Abou Saïefa, lui le directeur d'un hôpital de Beit Laya dans le nord, ce pédiatre qui a été arrêté en décembre dernier, lui qui a refusé de quitter son poste et qui avait multiplié les appels à sauver l'établissement sur les réseaux sociaux. Une détresse largement relayée dans les médias du monde entier. Aujourd'hui, Amnesty International alerte sur son sort comme sur celui de dizaines de soignants palestiniens détenus et torturés dans les prisons israéliennes. Amira Souilem.
Un homme s'avance dans les décombres de Gaza. Face à lui, 2 tanks de l'armée israélienne. Le docteur Oussam Abou Saïefa est arrêté quelques instants après. Cette image a fait le tour du monde. Près de 4 mois plus tard, les nouvelles ne sont pas bonnes, selon Boudour Hassan, d'Amnesty International.
Le docteur Houssam a été interrogé principalement sur le fait qu'il a prétendument soigné des otages et qu'il sait où ils sont. C'est quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Le docteur Houssam a démenti tout lien ou contact avec un quelconque groupe armé, alors qu'Israël tente de faire croire qu'il en a un. Le docteur Houssam est un pédiatre très connu à Gaza. Il y faisait seulement son travail.
Le docteur Houssam Abou Safia a confié à son avocat avoir été torturé, affamé, battu. Son cas n'en est qu'un parmi tant d'autres, rappelle Boudour Hassan.
Le personnel médical est torturé de façon spécifique parce qu'il opère dans le secteur de la santé. Plusieurs médecins et employés du secteur nous ont dit qu'on leur a clairement demandé s'ils étaient médecins et que le fait de répondre par l'affirmative a fait redoubler les coups.
Selon l'ONG, au moins 184 médecins et infirmiers de Gaza sont détenus ou portés disparus depuis le 7 octobre 2023. Amira Suilem, Ramallah, RFI.
Et le Hamas qui a de son côté rejeté hier une proposition israélienne de trêve, le mouvement islamiste palestinien qui réclame un accord complet pour mettre fin à la guerre. Accord qui impliquerait un échange unique de prisonniers et un retrait israélien de la bande de Gaza.
Une commission, mais pas de réparation pour Haïti.
Et ce 200 ans après l'ordonnance du roi de France Charles X qui reconnaissait alors l'indépendance d'Haïti en contrepartie d'une indemnité colossale de 150 millions de francs or. À l'occasion du bicentenaire, le président français Emmanuel Macron a donc lancé un travail de mémoire avec une commission d'historiens sous la houlette du diplomate Yves Saint-Jours et l'historienne haïtienne Gusty Clara Gaillard-Pourcher. Une déclaration d'Emmanuel Macron qui n'évoque pas de réparation financière, ce que reproche Frédéric Thomas, auteur du livre « Haïti, notre dette ».
Je pense que c'est une annonce contradictoire. Du côté positif, c'est une prise de parole publique au sommet de l'État qui reconnaît le problème de cette dette, qui appelle à une commission mixte qui sera co-présidée par l'une des plus brillantes historiennes haïtiennes sur la question. Côté négatif, il n'y a aucune référence au terme de réparation et de restitution. Et par ailleurs, c'est une méthode biaisée. Il aurait mieux fallu commencer par la reconnaissance des faits, une demande de pardon, avant de s'en lancer dans une commission, parce que à l'heure actuelle, il y a un consensus assez large parmi les historiens sur les faits. Il faut une restitution matérielle. Maintenant, les conditions, les modalités de cette restitution, c'est à négocier avec des acteurs et des actrices haïtiens. Donc, c'est pas la France à décider seule. Réparer, ça suppose à la fois de demander pardon, de reconnaître cette injustice et de s'engager dans un processus de retour sur l'histoire, la manière dont cette histoire est transmise, mais encore de changer la politique actuelle à l'égard d'Haïti.
Des propos recueillis par Joris Zilberman. La dette haïtienne et la question de sa restitution à retrouver également sur notre site internet. Éclairage signé Juliette Chénion, à lire sur le www.rfi.fr.
RFI 7h08 à Paris et à Kigali. Le M23 doit rendre les armes, exige le monsieur Afrique de la Maison Blanche.
Et les forces rwandaises doivent se retirer du territoire congolais. Voilà les mots de Massad Boulos, émissaire américain pour l'Afrique, lors d'un point presse après avoir rencontré les présidents congolais et rwandais en début de semaine. Jusqu'ici, tous les appels de la communauté internationale à un arrêt des combats sont restés lettres mortes. Massad Boulos qui a par ailleurs révélé que Washington souhaitait renforcer sa coopération économique avec Kinshasa, notamment à travers un accord minier actuellement en négociation.
Au Sénégal, 5 anciens ministres dans le collimateur de la justice.
Et ils pourraient être poursuivis pour détournement de fonds publics. Tous en poste durant le dernier mandat de Macky Sall, ils sont pointés pour leur gestion du fonds Covid-19. La Cour des comptes avait révélé une série de fautes de gestion présumées en décembre 2022. RFI Dakar, Léa-Lisa Westerhoff.
De graves présomptions de prévarication, comprenez de détournement de deniers publics, pèsent sur ces 5 anciens ministres, a affirmé le procureur de la République près de la cour d'appel de Dakar hier. Sans vouloir révéler l'identité de ses hauts responsables, Mbacké Fall a expliqué avoir transmis leur dossier à l'Assemblée nationale pour qu'elle décide de leur poursuite ou non devant la Haute Cour de justice.
C'est une procédure vraiment qui est exceptionnelle, c'est la Haute Cour de justice. Tous les ministres qui ont agi et commis dans l'exercice de leurs fonctions des infractions sont justiciables de cette haute cour de justice.
En dehors de ces 5 anciens ministres, 27 personnes ont été inculpées depuis le début de la semaine pour des malversations présumées dans l'utilisation des financements spéciaux dédiés à la riposte contre le coronavirus entre 2020 et 2021. Parmi elles, des dizaines de personnalités publiques et de hauts fonctionnaires du secteur de la santé. Mais pour le procureur de la République, Ibrahim Ndoye, ce n'est qu'un début.
Les recherches se poursuivent pour l'identification de tous les individus, toutes les personnalités, à quel niveau qu'elles se situent ces personnalités, pour pouvoir les installer et espérer encore une fois procéder au recouvrement de ces deniers injustement, illégalement et indignement spoliés au peuple sénégalais.
L'ouverture de procédures judiciaires était très attendue des Sénégalais, choqués par les nombreux cas de surfacturation relevés fin 2022 par la Cour des comptes, comme ceux de gel hydroalcoolique par exemple, ou encore du riz, acheté 2,7 milliards de francs CFA plus cher que son prix réel. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
À l'approche de Pâques, le chocolat coule à flot, un aliment qui présente pourtant un épouvantable bilan carbone.
Ah oui, le cacao, la vanille ou encore le soja, des aliments très consommés par les Européens, mais catastrophiques pour la planète, selon une étude commandée par Greenpeace et l'ONG Max Havelaar. Entre travail des enfants et déforestation, le bilan est alarmant, Lia Roisin-Pilou.
Dans les supermarchés européens, lorsqu'on achète du soja, du cacao, de l'huile de palme ou du riz, on ignore souvent leurs conditions de production dans les pays exportateurs. Blaise Desbordes est président de l'ONG Max Havelaar.
Ce sont les quatre denrées qui vont avoir le plus d'impact sur l'environnement. Dans le Cerrado brésilien, vous avez des centaines de milliers d'hectares qui disparaissent pour la production de soja et qui sont donc de la déforestation.
Pour la vanille et le sucre, ce sont les conditions de travail qui sont délétères.
De très nombreuses exportations partent de pays qui sont considérés comme ayant recours au travail des enfants ou au travail forcé. Le premier producteur mondial, Madagascar, produit la vanille, mais avec un revenu correspondant à 40% seulement du revenu minimum vital.
Ces dernières années, l'Union européenne veut inverser la tendance en bannissant les produits qui contribuent à la déforestation, au travail forcé et en obligeant les multinationales à préserver les droits de l'homme. Mais un accord pourrait tout bouleverser, celui du Mercosur.
Le paradoxe, c'est que le Mercosur va rendre possible de vendre nos pesticides fabriqués en Europe aux Sud-Américains, que eux les utilisent sur des cultures ou sur des productions agricoles, etc. Et que ces productions agricoles reviennent, avec bien entendu des résidus, sur le marché européen alors qu'ils sont interdits.
Greenpeace, l'Institut Veblen et Max Havelaar, ces organisations rejettent en bloc l'accord de libre-échange.
Et on reparle environnement dans une heure, Marion, avec notre grand invité international, le président de la COP30, le haut diplomate brésilien André Correa de Lago. Il sera au micro de Jeanne Richard, la COP30 qui doit se tenir en novembre à Belém.
On termine, Martin, avec ce top 100 toujours très attendu, celui du Time Magazine.
Et lui n'avait pas le Time, clairement. En 2024, le Français Léon Marchand, le nageur quadruple champion olympique, qui est en bonne compagnie dans ce classement des 100 personnalités les plus influentes du monde, en compagnie de l'ancienne joueuse de tennis Serena Williams, du chef d'État syrien Ahmed Al-Shara. Léon Marchand qui n'est pas le seul Français de cette liste. On retrouve aussi le nom de Gisèle Pélicot, précision Tom Balki.
Ils apparaissent à la catégorie « icônes », l'un des 6 groupes de cette liste qui se concentre sur les individus qui, je cite, « transforment le monde et les forces de ceux qui façonnent nos vies ». Chaque personnalité fait l'objet d'une justification par un expert ou un journaliste du Time. C'est donc le cas des deux Français. Gisèle Pélicot est devenue une icône auprès des victimes de viol depuis le procès qui a condamné son mari à 20 ans de réclusion criminelle. La célèbre féministe américaine, Gloria Steinem, écrit « Chaque matin, quand Gisèle Pélicot arrivait dans ce tribunal en France, la tête haute, elle refusait par là d'être sous la domination d'un ordre patriarcal qui a asservi les femmes depuis si longtemps. Également dans ce classement, Léon Marchand, quadruple médaillé d'or de natation au JO de Paris, à 22 ans seulement, et dont la motivation à mettre le premier la main sur la ligne d'arrivée a capturé l'attention du monde entier. C'est ce qu'écrit la championne canadienne Summer McIntosh. À Paris, poursuit-elle, le monde ressentait cette énergie quand Léon nageait. Léon est simplement inarrêtable.
L'inarrêtable marchand de rêve qu'on retrouvera dans les bassins à la fin du mois, ce sera en Floride. C'est ainsi que se referme ce journal. Moi, je vous laisse avec une autre icône, Marion Cazeneuve, pour la suite de RFI Matin.
Merci Martin Gazé pour la peine. Vous revenez dans deux heures pour un nouveau journal. 7h13 à Paris, 5h13 en temps universel. RFI Matin, on est ensemble pour 3 heures d'infos avec nos invités, nos reportages et nos chroniques. Notre invité Afrique ce matin est Martin Zighele, opposant centrafricain, ancien Premier ministre, qui continue de protester contre un éventuel troisième mandat du président Touadéra.
Pour nous, c'est une escroquerie politique. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est la même chose qu'un coup d'État militaire au Niger, au Mali, au Burkina ou ailleurs. Nous demandons un dialogue politique pour nous asseoir avec M. Faustin Archange Touadéra.
Entretien à écouter dans une demi-heure. La guerre en Ukraine. L'Ukraine sous des frappes russes quotidiennes. Les régions russes frontalières, elles, sont régulièrement visées par des attaques de drones. Le reportage international nous emmènera dans une de ces régions où les habitants ne se sentent plus en sécurité.
La situation est devenue plus alarmante. On voit des hélicoptères dans le ciel, des militaires sur les routes. Tous mes amis en parlent. C'est extrêmement dangereux pour nous ici. Dans la région de Rostov, j'ai aussi beaucoup de proches qui entendent des explosions, qui parlent d'hôpitaux surchargés et qui connaissent des gens qui ont été blessés.
Dans Aujourd'hui l'économie, on verra comment Donald Trump, avec sa guerre commerciale, met des bâtons dans les roues de l'industrie auto aux États-Unis. On parlera climat avec le grand invité international. On reçoit ce matin le président de la COP30 qui se tiendra au Brésil en novembre. Et puis c'est le premier chanteur africain à remplir le Stade de France. Le Nigérian Burna Boy est en concert ce soir près de Paris. Ses fans l'attendent de pied ferme, comme Sonia, d'origine tchadienne.
Ma famille là-bas commence à écouter, mais globalement comme ça. Et quand je leur ai dit que j'écoutais Burna Boy, ils m'ont dit « Mais comment tu le connais ? Enfin, c'est un artiste du continent, t'habites à Paris, vous écoutez pas ça ?» Je dis « Bah si, on écoute ça, et même jusqu'aux États-Unis. » Donc c'est vrai que ça nous a vraiment reconnecté avec nos racines.
Le reportage France et Burna Boy à écouter dans quelques minutes. RFI Matin, vous avez le programme. Bon réveil à notre écoute. Et on commence ce tour du monde de l'actualité en Asie aujourd'hui, entre la Corée du Nord et la Russie. Ce que vous entendez, c'est un extrait de communication radio récupéré par nos confrères de Reuters. Un Nord-Coréen annonce le retrait d'un bataillon dans la région russe de Koursk. 12 000 soldats nord-coréens combattraient aux côtés des Russes, selon les renseignements ukrainiens et américains. Difficile, en revanche, de faire des estimations sur les munitions que Pyongyang livre au Kremlin. Pourtant, c'est la mission que s'est donnée un centre de recherche britannique et l'agence Reuters. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour Marion.
Pour la chronique à la une en Asie. Comment ont-ils fait, Nicolas ? Est-ce qu'ils ont obtenu le contrat signé entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un ?
Alors, ça serait la solution idéale. Si vous l'avez, donnez-le-moi, Marion. En tout cas, les chercheurs de l'Open Source Center ne l'ont pas. Ils se sont appuyés sur des centaines d'images satellites pour analyser les allers-retours de 4 navires nord-coréens vers la Russie depuis août 2023. En comptant le nombre de conteneurs, en les modélisant, en les comparant aux munitions retrouvées en Ukraine et en calculant le nombre de munitions que peuvent comprendre chaque conteneur, ils sont parvenus à cette conclusion.
La Russie a organisé au moins 64 transferts de conteneurs depuis la Corée du Nord, et cela correspondrait à quelque chose entre 4 et 6 millions de munitions.
Une estimation conservatrice, précise Alessio Armenzoni, chercheur du centre de recherche britannique, car ils ne prennent pas en compte le transport ferroviaire, mais ces chiffres restent très élevés.
Ce qui est le plus préoccupant, c'est de constater la différence entre ce que la Corée du Nord a envoyé à la Russie et ce que l'Occident et son complexe militaro-industriel ont pu envoyer à l'Ukraine.
Des livraisons nettement supérieures, par exemple, aux 500 000 d'obus d'artillerie envoyés par le Royaume-Uni à l'Ukraine depuis février 2022.
Alors Nicolas, comment la Corée du Nord a-t-elle les capacités de produire autant ?
Eh bien d'abord car le pays dispose de stocks importants et puis son économie est tournée vers la défense depuis de longues décennies. Les usines d'armement tourneraient désormais 24 heures sur 24 pour augmenter drastiquement les capacités de production et permettre à l'armée russe, très consommatrice en artillerie, de pouvoir poursuivre sa guerre à haute intensité. Allez,
ces munitions nord-coréennes ont offert une bouée de sauvetage à l'armée russe. L'artillerie est surnommée les dieux de la guerre. Certaines unités russes sur les fronts utilisent 40, 50, 60% voire plus de munitions d'origine nord-coréenne.
Des livraisons d'armes nord-coréennes composées d'obus 122 mm, 152 de roquettes et de missiles balistiques.
Et qu'est-ce que Pyongyang gagne en échange ?
Là encore, il faudrait mettre la main sur ce fameux contrat, mais une étude de l'Institut coréen d'analyse de défense estime l'ensemble de ces livraisons d'armes à un peu moins de 20 milliards d'euros. En plus de l'argent que récupère sûrement Pyongyang, des images satellites ont permis de détecter des envois de pétrole. La Corée du Nord pourrait aussi voir d'un bon œil le transfert de technologies russes. Une collaboration fructueuse qui n'est pas prête de s'arrêter. Un pont routier est en train d'être construit entre les deux pays pour continuer d'augmenter les échanges.
À la une en Asie, signé Nicolas Roca. Un œil à présent sur les quotidiens français ce vendredi 18 avril. Une caricature de Donald Trump en une de Libération qui titre « Trump braque les facs ». Le président américain poursuit son offensive contre les universités qu'il considère comme des bastions du progressisme, déplore le quotidien. Les journaux reviennent aussi sur la rencontre entre Européens, Américains et Ukrainiens à Paris sur la guerre en Ukraine. De premières discussions sans réelle avancée, résume Le Monde. Cette rencontre fait figure d'exception dans le tango russo-américain, commente Le Figaro, et qui a bien remarqué le rapprochement inédit entre Washington et Moscou depuis le changement d'administration à la Maison-Blanche. Il y a le volet diplomatique donc, et puis il y a le terrain. La Croix s'est rendue à Kryvyi Rih, la ville natale de Zelensky, sous sous les bombes russes, titre Le Quotidien qui raconte la recrudescence et la violence des frappes dans cette cité métallurgique.
RFI Matin.
Comme tous les vendredis, RFI vous propose de mieux comprendre son travail et son fonctionnement avec l'émission Pourquoi RFI dit ça à 19h40, temps universel. Et ce sera avec vous, Théo Renaudon, bonjour.
Bonjour Marion.
Cette semaine, vous vous intéressez aux élections au Gabon.
Où le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été largement élu à la tête de son pays, score de 90%, ne laissant donc que des miettes à ses adversaires. Un succès sans surprise, a titré RFI, ce qui a interrogé certains de nos auditeurs. Nous en parlons avec le journaliste du service Afrique de RFI, François Mazet, depuis Libreville.
Dans la foulée du putsch, si vous voulez, on a vu cet immense soulagement parmi la population d'être débarrassé d'Ali Bongo. Ça lui a donné un crédit énorme qui est à peine entamé aujourd'hui malgré des promesses pas toujours tenues. Deuxièmement, il y a le déroulement de la transition puisque la quasi-totalité des forces politiques, la société civile se sont rangées derrière lui par conviction ou par intérêt. Même des grandes figures qui ont été mises hors course en raison de critères d'éligibilité restrictifs, eh bien, n'ont pas moufté et ont poussé sa candidature. Donc, il y avait une forme d'unanimisme.
Théo, vous nous parlez aussi cette semaine de la différence entre djihad et terrorisme.
Deux mots que l'on entend régulièrement sur RFI. Nous répondons à une question de Babacar à Abidjan qui accuse notre radio de vouloir entretenir la confusion entre terrorisme et djihadisme. Alors, à partir de quelle base on décide d'utiliser un terme ou l'autre ? Nous répondons à cette question avec le journaliste du service Afrique de RFI, David Bachet.
Pour éviter de semer la confusion, pour éviter d'induire en erreur, j'évite au maximum le terme de terroriste parce que c'est celui qui est le plus flou en termes de définition. Le djihad, c'est d'abord une introspection personnelle, une recherche spirituelle. Il y a aussi le djihad armé qui cherche à étendre l'islam par les armes. C'est assez factuel, assez descriptif. Terroriste, ce terme-là, il est plus flou et il induit plus facilement en erreur ou il peut être assimilé à de la propagande, à une utilisation politique.
On vous retrouve donc à 19h40, temps universel sur RFI Théo dans Pourquoi RFI dit ça, et un peu avant aussi puisque vous revenez dans un peu plus d'une heure pour la revue de presse. RFI 7h22 à Paris, un concert historique au Stade de France ce soir, celui de Burna Boy, star de l'Afrofusion. Le Nigérian sera le premier chanteur africain à se produire dans ce stade aux 80 000 places près de Paris. Ils sont peu d'artistes à l'avoir rempli et Burna Boy en fait désormais partie. Il est attendu de pied ferme par ses fans rencontrés par Tanita Fallet.
Anna, coiffée de mèches roses, arrive tout juste du Havre, à 3 heures de Paris. Elle enlace son amie Sonia qu'elle n'a pas vue depuis le concert de Burna Boy à Londres en juin dernier.
Alors moi c'est Anna, j'ai 21 ans, je suis étudiante et grande fan de Burna Boy.
Et moi je m'appelle Sonia, j'ai 35 ans et je suis avocate et j'aime beaucoup Burna Boy aussi.
Moi aussi je suis trop contente.
Elles écoutent l'artiste depuis 10 ans. Ensemble, elles l'ont vu à Londres, Berlin et Prague. Anna est même allée
jusqu'aux États-Unis et au Nigeria. Enfin, voilà. Du coup, j'ai fait 3 continents pour voir Burna et j'étais aussi jusqu'à me tatouer son nom de scène.
Chez elle, Burna Boy, c'est une affaire de famille.
Allô, mamie ? Oui, je suis arrivée.
Sa grand-mère l'accompagne dès que le Nigérian se produit à Paris.
J'ai déjà fait 2 Bercy et la Défense avec ma petite fille, donc déjà c'est déjà des belles fans, mais là ça va être énorme, ça donne envie.
La femme de 67 ans ne va pas s'apprêter, mais pour Anna et son amie, l'apparence est une question centrale.
Quelle tenue ? Faut faire nos ongles avant ?
Faut que je rentre me changer, mais j'aimerais bien y être tôt, donc faut que je trouve une tenue qui me permette d'être confortable, mais aussi quand même sympa pour le concert. Donc j'ai toujours pas trouvé, mais il faut y penser, c'est de la logistique. Hein. J'aime beaucoup cette chanson, les paroles elles sont vraiment bien.
Ça raconte quoi comme ça ?
En fait c'était l'histoire par rapport à tout ce qui était colonisation, etc. Oui.
Car Burna Boy c'est aussi un symbole. Il est le premier artiste africain à se produire au Stade de France. Une fierté pour Sonia d'origine tchadienne.
Le Nigeria a une grosse frontière avec le Tchad. Ma famille là-bas commencé à écouter, mais globalement comme ça. Et quand je leur ai dit que j'écoutais Burna Boy, ils m'ont dit, mais comment tu le connais? Enfin, c'est un artiste du continent, t'habites à Paris, vous écoutez pas ça? Je dis, bah si, on écoute ça, et même jusqu'aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça rajoute aussi ce côté-là de proximité. Ouais. Ça nous a vraiment reconnecté avec nos racines.
Anna espère que Burna Boy la reconnaîtra. À force d'aller à ses concerts, il lui a même donné un surnom, Yemizi. Honoré de Dieu en Yoruba, une des langues du Nigeria, Anna a appris à la parler.
Je sais que s'il me voit, il va réagir et ça va vraiment me rendre super heureuse et tout.
Pour le Stade de France, elle a donc pris des places en VIP pour être au premier rang.
Burna Boy, le roi de l'afrofusion, en concert ce soir au Stade de France à Paris. Dans quelques minutes sur RFI, c'est le retour de l'actualité africaine. Nous, on continue d'écouter de la musique. On fait un tour dans la playlist musicale de RFI. Cette fois, on écoute Bigaranx avec son titre « Danse ».
Les yeux mouillés sous les rébans. Baby, I love you from day one. Il faut que je débranche le V1, que je sorte de chez WAM. Que veux-tu que je danse si tu n'es pas ici? Plus rien n'a de sens si tu n'es pas dans ma vie. T'as juste réduit la distance avec tous mes soucis. Ma vie est trop intense, y'a que toi qui l'a douci. Et moi, que veux-tu que je danse si tu n'es pas ici? Rien n'a de sens si tu n'es pas dans ma vie. T'as juste réduit la distance avec tous mes soucis. La vie est trop intense, y'a que toi qui l'adoucis. Hey, tu m'as fait rain drop toutes les mélanges de mon cœur. J'étais on top, maintenant à l'étage inférieur. À mission non-stop, y'a plus que moi et mon sang pleure. Mais il est trop tard comme quand j'ai pas vu l'heure. Mais ça c'était hier, maintenant j'fais pas le fier. J'sortais de la cahier, j'pensais qu'à ma carrière. À faire deux, trois billets, plus manger depuis hier. Fais doucement que c'est l'hiver, que les sables sont plus verts. Que veux-tu que je danse si tu n'es pas ici? Plus rien n'a de sens si tu n'es pas dans ma vie. T'as juste réduit la distance avec tous mes soucis. La vie est trop intense, y'a que toi qui l'adoucis. Hey, que veux-tu que je danse si tu n'es pas ici? Plus rien n'a de sens si tu n'es pas dans ma vie. T'as juste réduit la distance avec tous mes soucis. La vie est trop intense, y'a que toi qui l'adoucis. Hey. Les yeux mouillés sous les rébans. Baby, I love you from day one. Il faut que je débranche le V1. Il faut que je sorte de chez moi. J'aimerais me lever de mon canapé, débrancher la PS1. J'aimerais t'emmener sous la canapé comme Polo et Fon. Que veux-tu que je danse si tu n'es pas ici? Plus rien n'a de sens si tu n'es pas dans ma vie. T'as juste réduit la distance avec tous mes soucis. La vie est trop intense, y'a que toi qui l'adoucis. Dis-moi, que veux-tu que je danse si tu n'es pas ici? Rien n'a de sens si tu n'es pas dans ma vie. T'as juste réduit la distance avec tous mes soucis. Ma vie est trop intense, y'a que toi qui l'adoucis. Hey.
Bigaranx et son titre Danse que vous retrouvez dans notre playlist musicale du mois sur RFI. Dans un peu plus d'une minute maintenant, le retour de l'actualité africaine.
À mission non-stop, y'a plus que moi et mon sang pleure. Mais il est trop tard comme quand j'ai pas vu l'heure. Mais ça c'était hier, maintenant j'fais pas le fier. Chanter de la cahier, j'pensais qu'à ma carrière. À faire deux, trois billets, plus manger depuis hier. Fais doucement que c'est l'hiver, les meulards c'est ordinaire. Et que veux-tu que je...
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, questions de parents, le paludisme chez les enfants. Comment protéger les moins de 5 ans, groupe le plus vulnérable à l'infection?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières,
Catherine Fruchon-Toussaint.
40 ans après son enlèvement au Liban, où il est resté otage plus de 1000 jours, Jean-Paul Kaufmann se souvient surtout de son enfance en Bretagne, dans un petit village. Une époque, dit-il, dont les images heureuses l'ont sauvé de la captivité. Un témoignage inédit qu'il livre dans son nouveau récit intitulé « L'accident ».
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet « Actu » de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI.